La grande édition vous est présentée par Didier Arnoux. Bonjour.
Bonjour. Au sommaire de ce journal, le procès des assassins présumés de Jean-Luc Codaccione et Tony Kilikine. Procès qui s'est ouvert hier à Aix-en-Provence devant les assises des Bouches-du-Rhône. On retrouvera Marion Galland pour les premières études de personnalité des accusés. Nous parlerons politique avec la Chambre des territoires qui cherche à optimiser ses compétences, en finir avec le mythe de la coquille vide. L'évolution institutionnelle attendue pourrait lui donner un second souffle. Nous évoquerons l'arrivée prochaine de la flamme olympique en Corse. Elle va illuminer l'île le 14 mai. En attendant, question sécurité, on s'active pour que l'événement ne soit pas entaché d'incidents. Le mardi, c'est politique sur RCFM à midi et demi et Bintiminoudi. Patrick Vinciguer, vous recevez aujourd'hui François Alfonsi.
Le nationaliste François Alfonsi, seul eurodéputé corse sortant qui ne se représente pas. Il est par ailleurs président de la Fédération Régions et Peuples Solidaires. Avec lui, nous évoquerons les élections européennes qui auront lieu dans près d'un mois, le 9 juin précisément. Les Français, comme les électeurs des 26 autres pays de l'Union, sont appelés à élire leurs représentants au Parlement européen. 81 députés sur 720. Une élection qui ne passionne pas vraiment les foules. La participation est généralement faible. Et pourtant, l'Europe occupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien, tant au plan économique que social, une chance pour certains, un handicap pour d'autres. François Alfonsi nous dira quels sont les enjeux de ce scrutin pour l'Europe en général et la Corse en particulier. L'occasion aussi de faire le bilan de son mandat, de son action. Rendez-vous à partir de 12h30.
Merci Patrick. Voilà pour le menu de cette heure d'info sur RCFM. Et avant cela, direction Aix-en-Provence, le procès du double assassinat de Porrette. L'assassinat de Tony Kilikine et Jean-Luc Codaccione, le 5 décembre 2017, sur le parking de l'aéroport de Bastia-Porrette, à 6 ans et demi après les faits, dans un palais de justice ultra sécurisé. Une quinzaine de personnes sont jugées. Aujourd'hui, la cour commence à étudier la personnalité des accusés. Et ce matin, Marion Galland, elle s'est longuement penchée sur celle d'Ange-Marie Michelozzi.
Oui, Didier, Ange-Marie Michelozzi, chemise noire, cheveux courts et moustache fine, s'est exprimé une bonne partie de la matinée. Durant les 6 années d'enquête, il avait toujours refusé de parler aux policiers et aux juges. J'étais loin de chez moi, mes conditions de détention n'étaient pas normales, donc je n'ai participé à rien. Aujourd'hui, il est important pour moi de prendre mes responsabilités et je compte les prendre. Ange-Marie Michelozzi a évoqué son enfance, stable et heureuse, dans une famille aimante et une vie qui bascule lorsque son père, avec qui il entretient une relation presque fusionnelle, se fait assassiner. Vous voyez, quand le soleil est au zénith, eh bien là, c'est comme si d'un coup il avait fait nuit, c'est un déchirement, la vie devient de la survie. Ange-Marie Michelozzi, pardon, poursuit et raconte une vie qui bascule, je cite, dans une forme de clandestinité subie. Je n'ai pas passé un anniversaire, pas un Noël en famille depuis 2008. Un ami et la sœur de l'accusé sont venus à la barre en tant que témoins de moralité. Tous deux ont totalement démenti le surnom d'héritier qui a été donné à Ange-Marie Michelozzi. La seule chose dont il a hérité, c'est son nom et son prénom, ont-ils expliqué, décrivant un jeune homme gentil, attentionné et cultivé. Ange-Marie Michelozzi a ensuite reconnu et expliqué son implication dans un trafic de stupéfiants. Menacé de mort après le décès de son père, il a raconté avoir vécu pendant des années et malgré lui comme un fugitif, impossible de travailler ou d'avoir une vie normale. Il s'est alors lancé dans le trafic pour subsister à ses besoins. Mais je n'ai jamais volé un centime à personne, clame-t-il dans le box. Les voyous, je les vomis et je n'ai jamais hérité de rien.
Merci Marion. Et j'ajoute que la cour vient de démarrer l'examen de la personnalité de Richard Guazzelli. Cet après-midi, ce sera celle de Christophe Guazzelli. En politique, va-t-on vers un renforcement des pouvoirs de la Chambre des territoires dans la perspective d'une évolution, d'une évolution institutionnelle? L'idée, en tout cas, fait son chemin. Réunis hier en session à Bastia, ses membres ont voté un rapport présenté par le président Gilles Simeone, allant dans ce sens. La Chambre n'aurait plus seulement un rôle consultatif, elle serait davantage impliquée dans le processus de décision de l'Assemblée de Corse. Une adoption à l'unanimité, moins une abstention, celle de Christophe Mondoloni, élu de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Il énonce une compétence de la compétence qui reviendrait à la collectivité de Corse et à la Chambre, prérogative nouvelle qui permettrait d'intervenir sur le périmètre même des intercommunalités, leurs moyens et leurs compétences. Christophe Mondoloni.
On parle de compétences de la compétence, ce qui enlèverait forcément des compétences à l'EPCI que nous sommes. Et donc, pour éviter toute forme de caporalisation, étant donné que c'est assez flou, selon nous, cette partie de document-là en tout cas, sachant que le président de la CAPA a envoyé deux courriers au président des exécutifs sans réponse ce jour. Donc, étant donné que cela est flou, pour nous, nous nous abstenons. Or, on ne va pas parler de dépossession. Disons que nous essayons d'éviter une mise sous tutelle potentielle, étant donné que, à ce jour, selon nous, ce n'est pas clair et clarifié. Nous nous sommes abstenus, tout simplement.
Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, répond Tony Tchekal, il maire de Lame et président du bureau de la Chambre des territoires.
On est toujours mécontent d'un système qui est en place, mais on a toujours peur d'un nouveau système qui se met en place. Donc on peut comprendre. Et puis après, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord avec tout. Nous, notre intérêt, c'était d'entendre ce qui se disait sur le territoire. C'est la démocratie qui veut ça.
Mais qu'est-ce que c'est, cette fameuse compétence de la compétence?
C'est-à-dire que les compétences de la collectivité de Corse qui soient déléguées à l'Assemblée des territoires. Alors effectivement, je pense que ce qui est inquiétant, c'est sur le périmètre d'intercommunalité. Le but aujourd'hui, c'est pas de s'amuser avec les périmètres d'intercommunalité, c'est de faire en sorte que les intercommunalités qui ont le plus de difficultés à fonctionner aujourd'hui, où des erreurs manifestes de l'État ont été faites à l'époque, c'est de pouvoir y remédier. C'est dans ce sens-là que ça a été pensé.
Les reportages signés Patrick Winchiger. Puis je vous rappelle qu'à un peu plus d'un mois des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, précisément, on reçoit aujourd'hui dans Bintiminou, dit le seul eurodéputé corse sortant, François Alphonse, élu nationaliste président du parti Région et Peuple Solidaire, qui ne se représente pas. L'occasion de dresser un bilan de son mandat, évoquer les enjeux du scrutin pour l'Europe en général et pour la Corse en particulier. Bintiminou dit c'est à midi et demi sur RCFM. La flamme olympique, on en parle, vous le savez, elle sera en Corse le 14 mai prochain. Dans une semaine, jour pour jour, elle traversera la Corse, d'Ajaccio à Bastia, en passant par Bavé, la Lille-Rousse, Porto Vecchio notamment. Ce sont en fait trois convois différents qui vont se succéder. L'événement va se dérouler sous surveillance renforcée. En tout, ce sont environ un millier de membres de forces de l'ordre qui seront répartis sur le parcours pour assurer la sécurisation. Explication de Florian Srazer, le directeur de cabinet du préfet de Corse du Sud, au micro de Marion Galland.
Sécurisation, c'est d'abord un dispositif au plus près. Trois convois qui circuleront parallèlement sur l'île. Chaque convoi étant composé de véhicules de l'organisation, mais également de nombreux véhicules des forces de l'ordre qui permettent de sécuriser le porteur de la flamme à tout instant et le public autour, compte tenu de la menace terroriste et des menaces de troubles à l'ordre public qui pourraient intervenir. Ça permet aussi, via un groupe d'intervention qui est dans le convoi, un dispositif de lutte anti-drone, des unités de force mobile et des coureurs policiers et gendarmes au plus près du porteur de la flamme, de s'assurer à tout moment qu'il n'y aura pas de tentative de trouble et de prendre en compte surtout la menace terroriste qui est très élevée avec un plan Vigipirate qui est à son niveau le plus élevé depuis plusieurs semaines maintenant et qui le sera encore au moment du passage de la flamme.
Alors la flamme arrivera demain à Marseille après avoir traversé la Méditerranée à bord du Belém depuis la Grèce. Elle est passée pas loin des côtes corses déjà. 11 000 porteurs vont se succéder jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain à Paris. Un relais de la flamme qui va traverser au total 450 villes en France métropolitaine et en Outre-mer. Et pour que le feu sacré allumé à Olympie ne s'éteigne jamais, la flamme sera, vous venez de l'entendre, entourée d'une bulle de protection tout au long du parcours. Une soixantaine de policiers et de gendarmes entraînés, surentraînés, Mathilde Vincenneux. Vous avez d'ailleurs assisté à l'un des entraînements pour cette mission pour le moins particulière.
Du convoi.
C'est un convoi très lent d'une quarantaine de véhicules, des unités d'élite comme le GIGN ou des spécialistes de la lutte anti-drone. Ils entourent la flamme qui passe de torche en torche. Une flamme escortée par une vingtaine de coureurs, des policiers et gendarmes en basket, entraînés à tous les scénarios.
Là, on a une tentative d'intrusion.
Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.
L'objectif pour nous, c'est d'interpeller pour que le convoi puisse repartir rapidement. Et aussi de judiciariser, parce que c'est un délit de vouloir ainsi entraver le convoi de la flamme.
Certains vont essayer de se servir de cette visibilité pour leurs revendications. On sait qu'on va certainement être perturbé.
Le commissaire Charles Barion.
Le niveau de sécurité doit être le même le premier jour à Marseille, le dernier jour à Paris, mais quand on va passer à Pont-Audemer, à Saverne en Alsace ou quand on sera à Dieppe.
Et certains n'auront qu'une mission, garder la flamme allumée. Jean-Marc, major de gendarmerie et gardien de la flamme.
On est responsable 24 heures sur 24, nuit et jour. Cette flamme, elle doit rester allumée de la Grèce jusqu'à Paris. Vu le dispositif, il n'y a pas de crainte à avoir.
Parce que les gardiens de la flamme conservent précieusement, à l'abri du public et des intempéries, des lanternes de secours allumées par le feu d'Olympie.
Et la flamme olympique en Corse, je le rappelle, c'est mardi 14 mai. C'est à vivre sur RCFM. Le jeune attaquant du Sporting de Bastia, Fassiné Konté, lui est convoqué par la sélection guinéenne pour le barrage intercontinental. Indonésie-Guinée, c'est un match qui compte pour les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris. La rencontre aura lieu ce jeudi, le 9, à 15h, au Centre National du Foot à Clairefontaine. C'est le SCB qui l'a annoncé il y a quelques instants sur ses réseaux sociaux. On change de sujet. Il y a de plus en plus de réclamations auprès du défenseur des droits. 10% d'augmentation en 2023 par rapport à 2022. Selon le dernier rapport annuel d'activité, en Corse, 4 délégués aux défenseurs des droits sont répartis à Ajaccio, Bastia, Sartène, Porto Vecchio. Le plus gros des réclamations, 96%, concernent des dossiers des droits des usagers de services publics. Dominica, elle, s'est battue pendant 4 ans, seule, pour résoudre un litige. Et puis tout est allé beaucoup plus vite avec l'aide du défenseur des droits.
C'est en 2019, j'ai eu un petit accrochage avec mon véhicule de près et j'ai crevé un pneu. Et cette crevaison était due à un trottoir qui était mal conçu, que j'étais quand même pas, j'allais pas vite du tout. Hein. Et donc j'ai appelé la mairie qui a vite fait réparer. Et après, c'était un litige avec la caisse d'assurance de la collectivité. Parce que ce sont des rues qui appartiennent certaines à la collectivité et d'autres à la mairie. Donc tout a été fait, tout a été réparé, mais la responsable, c'était moi. Parce que, paraît-il, je ne savais pas conduire. Donc bon, c'est un peu insupportable, parce que la réparation était quand même assez chère, je dirais. Et donc j'ai essayé de me défendre toute seule, mais je ne suis pas arrivée. Et là, j'ai fait appel à un défenseur des droits de la préfecture. Et donc, il m'a défendue. Bon, on n'a pas pu obtenir la totalité, mais quand même, t'as demandé, écoutez, peut-être 5-6 mois.
Et sachez que si vous avez besoin de faire appel à un délégué du défenseur des droits, je le rappelle, ils sont 4 en Corse, Ajaccio, Bastia, Sartène et Porto Vecchio. Il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer pour être aidé. Et on en parle plus en longueur de ce sujet avec l'un d'entre eux, invité de la rédaction, Félix Squarcini, délégué au défenseur des droits à Ajaccio. Et il répond aux questions de Clémence Gourdon-Negrini.
Bonjour Félix Squarcini.
Bonjour Clémence.
Alors en trois mots, d'abord, quel est votre rôle? Quand est-ce qu'on fait appel à vous?
Alors tout d'abord, je vais présenter un petit peu en quelques mots le défenseur des droits. Donc moi-même, je suis un des 600 délégués du défenseur des droits de tout le territoire. Nous sommes 4 en Corse, 2 en Haute-Corse, Josette Caron et Christian Guichetot, 2 en Corse du Sud, Jean-Jacques Deplette et moi-même. J'occupe la fonction d'animateur régional et effectue mes permanences à la préfecture d'Ajaccio. Mes collègues fonctionnent à la maison de justice de Porto Vecchio, au CCAS de Bastia ou en télétravail. Pour nous contacter par internet en tapant défenseur des droits puis en indiquant la région, lieu et jour de permanence, téléphone et mail, ou par la plateforme 09 69 39 00 00, pour l'antidiscrimination 39 28, en prison 31 41 et par courrier sans timbre.
Alors justement, vous précisez l'antidiscrimination, la prison, etc. On va préciser encore un peu plus votre rôle. Vous avez 5 domaines de compétences.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, je vais quand même un petit peu situer notre action. En général, lorsqu'un usager appelle le délégué du défenseur des droits, c'est qu'il n'arrive pas à régler son problème ou bien qu'il n'a pas de réponse à ses courriers. Tout d'abord, il s'agit de bien comprendre la réclamation et vérifier si l'usager a bien traité au préalable avec l'organisme, s'il est chargé d'une mission de service public. En effet, notre fonctionnement repose sur le contradictoire et notre intervention ne peut exister qu'après vérification d'échanges matériels entre les deux parties. Nous ne pouvons pas faire démarrer un dossier en nous appuyant uniquement sur du déclaratif.
Mais alors justement, Félix Squarcini, on va déblayer les champs de compétences sur lesquels vous intervenez après ces vérifications, effectivement, notamment en Corse, le plus gros, c'est le droit des usagers des services publics. Donc
tout
on parle
fait.
Des collectivités, des mairies, de la CAPA, des impôts, par exemple, encore. Est-ce que vous avez des exemples précis de litiges que vous auriez réglés comme ça?
Bien sûr.
Notamment, on a eu le témoignage d'une femme qui avait eu un souci après un accident de voiture. C'était un souci de trottoir qui avait été mal réalisé. Ça fait partie de vos domaines de compétences, des champs dans lesquels vous aidez.
Voilà, tout à fait. Donc cette personne a eu un litige avec un service public, en l'occurrence c'était la mairie. La mairie, bien sûr, a laissé traiter le dossier par son assurance, et l'assurance refusait de dédommager la réclamante. Ça a duré quand même plus d'une année, avec des échanges de courriers, et à la fin, elle est venue me trouver. Donc quand c'est comme ça, nous on reprend le dossier totalement. On vérifie bien sûr que l'usager a bien fait des échanges de courriers. On peut pas nous démarrer comme ça ipso facto. Et on s'est aperçu en fait que cette victime, c'était le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs autres victimes qui ne s'étaient pas manifestées. Il y avait même un témoignage d'un garagiste du lieu qui avait réparé plusieurs roues. Esquinté par cette saillie du trottoir, et donc on a fait rebondir le dossier. Ça a été assez long, c'était pratiquement un contentieux, et à la finale, l'assurance a fini par dédommager cette personne. Donc je veux dire par là, ça peut être très très long, mais nous suivons notre fil rouge, et quand on est persuadé d'être dans le droit, on continue.
Et encore, ça facilite, on l'a entendu dans les journaux, des témoignages de gens qui se battaient seuls pendant bien plus longtemps et qui ont été évidemment beaucoup plus aidés par vos interventions à vous, délégués du défenseur des droits. On rappelle que c'est un service gratuit aussi.
Tout à fait, donc c'est un service totalement gratuit. Nous on intervient lorsque malheureusement tous les autres ont échoué. Il arrive même que des réclamants viennent en disant écoutez, moi j'ai pris un avocat, il a essayé, il n'y arrive pas, on m'a dit de venir vous voir, est-ce que vous voudriez essayer? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on dit mais comment le délégué du défenseur des droits lui peut réussir comme ça? Bien tout simplement parce que on a un critère qui est hyper important à notre époque, c'est le temps. C'est-à-dire, nous, on s'en fiche, comme on est bénévole, on va reprendre tout à zéro, on va passer le temps qu'il faut, on va reprendre point par point, on va aller dans tous les recoins, et quand on trouve une porte, eh bien on s'y engouffre, et ça paye.
Et ça permet, vous l'avez dit aussi, de rebondir parfois sur d'autres dossiers, d'aider d'autres personnes qui sont concernées par les mêmes problématiques. C'est déjà la fin de cette interview, Félix Squarcini. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle vous concernant que vous êtes en permanence les mardis, qu'on peut aussi vous contacter via le site internet et l'adresse mail qui est indiquée dessus. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Ajaccio, le STC contre-attaque et sans défenseur des droits. Le syndicat qui a fêté ses 40 ans il y a quelques jours s'est porté candidat aux élections qui concernent les entreprises de moins de 11 salariés, les TPE. Sa candidature a été retenue au niveau national et interprofessionnel. Deux éléments que conteste le syndicat Force Ouvrière. La confédération CGTFO avait donc déposé un recours pour faire annuler la candidature du STC. Recours examiné devant le tribunal judiciaire de Paris. Une dizaine d'autres syndicats est également concernés. Hier à Ajaccio, le STC a dénoncé ce qu'il considère comme une contestation de son existence même. Étienne Santucci, secrétaire national en charge de la trésorerie.
Il y a une dizaine de syndicats qui sont contestés. Je pense que c'est certaines organisations au niveau national qui ne supportent pas la diversité, qui ne supportent pas la démocratie, qui ne supportent pas que depuis une quarantaine d'années, il y ait des salariés qui s'organisent différemment, qui s'organisent dans des syndicats catégoriels ou qui s'organisent dans des syndicats locaux, comme le syndicat STC. On leur enlève de l'influence, on les gêne parce que nous pesons dans les décisions, nous pesons dans nos prises de position et à un moment donné, ça leur enlève un certain pouvoir.
Accusation démentie par Marcel Santini, le secrétaire général de FO en Corse.
Nous n'affirmons pas que le STC n'est pas un syndicat. Nous affirmons simplement que cette structure l'empêche de déposer des listes TPE. J'ajoute que sur le fond, j'ai bien entendu l'intervention de M. Clémenceau mercredi soir après leur colloque sur le 40e anniversaire. Il dit que la vocation du STC, ce n'est pas d'aller à Paris ou ailleurs. Le STC, c'est en Corse. Alors, question simple, pourquoi demandent-ils l'autorisation et ils l'obtiennent de déposer des listes de partout? Ça nous semble un peu contradictoire.
Reportage signé Léria Marie à Mousse. On change de sujet. Le tennis, c'est l'heure de la grand-messe pour les amateurs de petites balles jaunes en Lille avec les 38e championnats de Corse qui se dérouleront du 16 au 20 mai sur les installations du TC Calvi. Au total, ce sont 205 joueurs et joueuses âgés de 9 à 85 ans, 24 clubs aussi qui ont décroché leur billet pour la compétition. Une compétition qui cette année pourrait voir l'avènement de la plus jeune championne de Corse dans la catégorie reine avec la licenciée du TC Costa Verde. Elle s'appelle Lola Tremela, elle a 13 ans et elle fait partie des favorites au titre suprême chez les femmes. Une compétition en tout cas qui promet d'être très relevée pour le président de la Ligue Corse de tennis, Philippe Médor, interrogé par Jean-Philippe Thibaudeau.
On s'attend à une compétition acharnée et très ouverte. Pas de favoris cette année, notamment dans les catégories reines, mais nous on va suivre particulièrement nos catégories jeunes chez Louis XIV, on attend confirmation d'un certain nombre de jeunes. C'est aussi un temps de passage et puis on surveille aussi leur comportement dans un contexte bien particulier. Il ne s'agit pas que des championnats de Corse pour évaluer le niveau de nos enfants, mais ces derniers temps, les résultats sont plutôt satisfaisants. On progresse au niveau des jeunes, donc on attend confirmation aussi à Calvi.
Et puis on voit que les catégories sont très larges. Ça part du très très jeune au beaucoup plus âgé. On a jusqu'à 75+. Si je m'abuse, c'est énorme d'avoir autant de catégories représentées.
C'est la spécificité de notre ligue et de notre championnat. On est la seule ligue en France à organiser cette compétition sur 4 jours en réunissant les galaxies 8-10 ans, enfin 9-10 ans cette année, jusqu'aux 80+. Donc c'est une belle fête de famille aussi.
Allez, la Méditerranée pour conclure ce journal, comme tous les midis, traverser la Méditerranée à la nage du nord au sud en passant par la Corse et la Sardaigne, c'est le défi que lance l'association H2O Oura. L'objectif est de sensibiliser à la question même de l'eau. Le départ est prévu le 25 mai depuis Nice, avec des escales en Corse et en Sardaigne. C'est ce qu'explique dans Marée Ladine Florian Mio-Bruno. On l'écoute, il est interrogé par Jérôme Souzini.
Une traversée de la Méditerranée à la nage avec l'association H2O Oura. Florian Mio-Bruno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de cette association. Vous allez réaliser un film sur cette traversée entre Nice et Tunis, en passant par la Corse, par la Sardaigne. Au-delà de l'exploit qu'on peut imaginer, il y a une volonté de sensibiliser à l'eau.
La traversée, en réalité, n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est de parler de l'eau et de l'environnement. Et dans la logique de Pascal, le nageur, c'est vraiment de montrer l'exemple et de se jeter à l'eau. En quelque sorte, on a vraiment une bonne métaphore à créer autour de la répétition, l'effort. Petit à petit, on peut arriver à de grands objectifs. Et on est persuadé qu'en faisant des petites actions de tous les jours, en nageant un petit peu tous les jours, on peut faire des grandes choses comme traverser une mer. Donc l'idée, c'est de partir du continent, de Nice, et de rallier le continent africain en longeant la côte au cours de notre traversée, de rencontrer des associations, des élus.
Il y a une collecte de fonds qui est faite aussi.
Tout à fait, oui. La traversée a lieu en juin, donc là on est dans une phase de préparation, et pour que la traversée ait lieu et que tout ce film puisse être produit, que ces associations aussi avec qui nous travaillons puissent aussi toucher une partie de cette levée de fonds, puisque c'est ça le but final, c'est de faire au-delà de la sensibilisation mais aussi de l'action concrète. Et on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on est à la recherche de financement et de subventions, de dons privés, d'entreprises ou de particuliers qui voudraient faire leur part à leur manière et nous soutenir financièrement. On est à la recherche d'aide. On a une cagnotte de levée de fonds qui est disponible sur Hello Asso. Ça s'appelle H2O Oura, Oura en basque, qui veut dire l'eau. Tous ceux qui veulent faire leur part et nous soutenir sont les bienvenus. Cette cagnotte est là pour ça.
Eh bien, on suivra cette traversée. Florian Mobruno, association H2O Oura. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Traversée qui démarre le 25 mai depuis Nice avec des escales en Corse et en Sardaigne. Voilà pour l'information à 12h et pratiquement 25 minutes sur RCFM. Retour de l'actualité sur RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, nouveau nom, et puis bien évidemment sur bleurcfm.fr.